Chapitre 20 Déclaration d'amour de Chiquita. Une foule compacte garnissait la place de Grève, malgré l'heure assez matinale encore que marquait le cadran de l'hôtel de ville. Les grands toits de Dominique Bocador se profilaient en gris violâtre sur un ciel d'un blanc laiteux. Leurs ombres froides s'allongeaient jusqu'au milieu de la place et enveloppaient une charpente sinistre, dépassant d'un ou deux pieds le niveau des fronts et barbouillée d'un rouge sanguinolent. Aux fenêtres des maisons, quelques têtes paraissaient qui rentraient aussitôt, voyant que le spectacle n'était pas commencé. Une vieille femme montra même sa face ridée à une lucarne de la tourelle située à l'angle de la place, d'où la tradition veut que Madame Marguerite ait contemplé le supplice de la Mole et de Coconas, changement désastreux d'une belle reine en lait de sorcière. À la croix de pierre plantée au bord de la déclivité qui descend au fleuve, un enfant, se hissant à grand-peine, s'était suspendu, et il s'y tenait les bras passés au-dessus de la traverse, les genoux et les jambes en serrant la tige, dans une pose aussi pénible que celle du mauvais larron, mais qu'il n'eût pas quitté pour une fouasse ou un chausson aux pommes. De là, il découvrait le détail intéressant de l'échafaud, la roue pour tourner le patient, les cordelettes pour l'attacher, la barre pour lui briser les os, toutes choses dignes d'être examinées. Cependant, si parmi les spectateurs, quelqu'un se fût avisé d'étudier d'un œil plus attentif cet enfant ainsi perché, il eût démêlé dans l'expression de son visage un autre sentiment que celui d'une curiosité vulgaire. Ce n'était point le féroce appât d'un supplice qui avait amené là ce jeune être au teint bistré, aux grands yeux cernés de brun, aux dents brillantes, aux longs cheveux noirs dont les mains gantées de hâle se crispaient sur les croisillons de pierre. La délicatesse de ses traits semblait même indiquer un autre sexe que celui qu'accusaient ses vêtements. Mais personne ne regardait de ce côté, et toutes les têtes se tournaient instinctivement vers l'échafaud ou vers le quai par lequel devait déboucher le condamné. Parmi les troupes apparaissaient quelques figures de connaissance. Un nez rouge au milieu d'une face pâle désignait Malartic, et il passait assez du profil busqué de Jacquemin Lampourde par-dessus le pli d'un manteau jeté sur l'épaule à l'espagnol pour qu'on ne pût douter de son identité. Bien qu'il portât son chapeau enfoncé jusqu'aux sourcils afin de cacher l'absence de son oreille coupée par la balle de pied gris, il était aisé de retrouver Bringuenarille dans ce grand maraud, assis sur une borne et fumant une longue pipe de Hollande pour passer le temps. Pied-Gris lui-même causait avec Torgueule et sur les marches de l'hôtel de ville se promenait d'une façon péripatétique, causant de choses et d'autres plusieurs habitués du radis couronné. La place de Grève, où tôt ou tard ils doivent fatalement aboutir, exerce sur les meurtriers, les spadassins et les filous une fascination singulière. Cet endroit sinistre, au lieu de les repousser, les attire. Ils tournent autour, traçant d'abord des cercles larges, ensuite plus étroits, jusqu'à ce qu'ils y tombent. Ils aiment à regarder le gibet où ils seront branchés. Ils en contemplent avidement la configuration horrible et ils apprennent, dans les grimaces des patients, à se familiariser avec la mort. Effet bien contraire à l'idée de la justice qui est d'effrayer les scélérats par l'aspect des tourments. Ce qui explique en outre l'affluence de telles ribaudailles au jour d'exécution, c'est que le protagoniste de la tragédie est toujours un parent, une connaissance, souvent un complice. On va voir pendre son cousin, rouer son ami de cœur, bouillir ce galant homme dont on passait la fausse monnaie. Manquer à cette fête serait une impolitesse. Pour un condamné, il est agréable d'avoir autour de son échafaud un public de figures connues. Cela soutient et ranime l'énergie. On ne veut pas être lâche devant des appréciateurs du vrai mérite, et l'orgueil vient au secours de la souffrance. Tel, ainsi entouré, meurt en Romain qui ferait la famelette s'il était dépêché incognito au fond d'une cave. 7 heures sonnèrent. L'exécution devait avoir lieu à 8 heures seulement. Aussi, Jacquemin Lempourde, en entendant tinter l'horloge, dit à Malartic : « Tu vois bien que nous aurions eu le temps de boire encore une bouteille, mais tu es toujours impatient et nerveux. Si nous retournions au radis couronné, je m'ennuie de faire le pied de grue et de croquer le marmot. Voir rouer un pauvre diable, cela vaut-il une si longue attente ? Ce supplice est fade, bourgeois et commun. Si c'était quelque bel écartèlement à 4 chevaux, monté chacun par un archer de la prévôté, quelque tenaillement avec pince de fer rouge, quelque application de poids bouillante ou de plomb fondu, quelque chose d'ingénieusement torsionnaire et de férocement douloureux, faisant honneur à l'imagination du juge ou à l'habileté du bourreau. Ou alors je ne dis pas. Par l'amour de l'art, je resterai, mais pour si peu, fi donc. Je te trouve injuste à l'endroit de la roue, répondit sentencieusement Malartic en frottant son nez plus cramoisi que jamais. La roue a du bon. On ne peut pas discuter des goûts. Chacun est entraîné par sa volupté particulière, comme dit un auteur latin fort célèbre dont j'ai oublié le nom, ma mémoire ne retenant volontiers que ceux des grands capitaines. La roue te plaît, je ne te contrarierai pas là-dessus, et je te tiendrai compagnie jusqu'à la fin. Convient cependant qu'une décollation faite avec une lame damasquinée, ayant dans le dos une rainure remplie de vif argent pour lui donner du poids, exige du coup d'œil, de la vigueur, de la dextérité, et présente un spectacle aussi noble qu'attrayant. Oui, sans doute, mais cela passe trop vite, ce n'est qu'un éclair, et puis la décapitation est réservée aux gentilshommes. Le billot est un de leurs privilèges. Parmi les supplices roturiers, la roue me paraît l'emporter sur la vulgaire pendaison, bonne tout au plus pour les malfaiteurs subalternes. Agostin est plus qu'un simple voleur. Il mérite mieux que la corde, et la justice a eu pour lui les égards qui lui sont dus. Tu as toujours eu un faible pour Agostin, sans doute à cause de Chiquita, dont la bizarrerie agaçait ton œil libertin. Je ne partage pas ton admiration à l'endroit de ce bandit, plus fait pour travailler sur les grands chemins et dans les gorges de montagne, comme un saltéador, que pour opérer avec la délicatesse convenable au sein d'une ville civilisée. Il ignore les raffinements de l'art. Sa manière est bourrue, hagarde et provinciale. Au moindre obstacle, il joue des couteaux et tue vaguement et sauvagement. Trancher le nœud gordien n'est pas le dénouer, quoi qu'en dise Alexandre. En outre, il n'emploie pas l'épée, ce qui manque de noblesse. La spécialité d'Agostin est la Navarra, l'outil de son pays. Il n'a point comme nous ébranlé pendant des années le carreau des salles d'armes. Mais son genre a de l'imprévu, de la hardiesse, de l'originalité. Son coup lancé réunit l'agrément de la balistique à la sûreté discrète de l'arme blanche. Le sujet est atteint à 20 pas, sans bruit. Je regrette fort que sa carrière soit interrompue si tôt. Il allait bien, c'était un courage de lion. Moi, répondit Jacquemin Lempourde, je suis pour la méthode académique. Sans les formes, tout se perd. toutes les fois que j'attaque. Je touche mon homme sur l'épaule et lui laisse le temps de se mettre en garde. Il se défend s'il veut. C'est un duel et ce n'est plus un meurtre. Je suis un spadassin, non un assassin. Il est vrai que ma profonde science de l'escrime m'assure des chances et que mon épée est presque infaillible, mais savoir bien le jeu, ce n'est pas tricher. Je ramasse la bourse, la montre, les bijoux et le manteau du mort. D'autres le feraient à ma place. Puisque j'ai eu la peine, il convient que j'aie le profit. Quoi que tu prétendes, ce travail au couteau me répugne. Cela est bon à la campagne et avec des gens de bas lieu. Oh toi, Jacquemin Lampourde, tu es ferré sur les principes. On ne t'en ferait pas démordre. Cependant, un peu de fantaisie ne messied pas en art. J'admettrai une fantaisie savante, compliquée et délicate, mais cette brutalité emportée et farouche me déplaît. D'ailleurs, Agostin se laisse griser par le sang et, dans son ivresse rouge, il frappe au hasard. C'est une faiblesse. Quand on boit la coupe vertigineuse du meurtre, il faut avoir la tête forte. Ainsi, dans cette maison où il s'est introduit dernièrement pour y voler des sommes, il a tué le mari, qui s'était éveillé, et la femme, qui dormait. Meurtre superflu, par trop cruel et peu galant. Il ne faut tuer les femmes que quand elles crient. Encore vaut-il mieux les bâillonner, car si l'on est pris, ces carnages attendrissent les juges et le populaire, et on a l'air d'un monstre. « Tu parles comme le Saint-Jean Bouche d'Or, » répondit Malartic, « d'une façon si magistrale et si péremptoire que je ne trouve rien à objecter. Mais que deviendra cette pauvre Chiquita ?» Jacquemin Lampourde et Malartic philosophaient de la sorte quand un carrosse, venant du quai, déboucha sur la place et produisit sur la foule des ondulations et des remous. Les chevaux piaffaient sans pouvoir avancer, et parfois leurs sabots retombaient sur des bottes, ce qui amena entre les malandrins et les laquais des dialogues hargneux et mêlés d'injures. Les piétons, ainsi foulés, eussent volontiers assailli le carrosse si les armes ducales blasonnées sur le panneau de la portière ne leur eussent inspiré une sorte de terreur, bien que ce fût ce gens à ne pas respecter grand-chose. Bientôt, les groupes devinrent si drus que l'équipage fut forcé de s'arrêter au milieu de la place où, de loin, le cocher, immobile sur son siège, semblait assis sur des têtes. Pour ouvrir un chemin et passer outre, il eût fallu écraser trop de canailles, et cette canaille, qui, à la grève, était chez elle, ne se serait peut-être pas laissée faire. C'est drôle, attendent quelque exécution et ne laisseront le champ libre que lorsque le patient sera expédié, dit un beau jeune homme magnifiquement vêtu à un ami de très belle mine aussi, mais en costume plus modeste, placé à côté de lui dans le fond du carrosse. Au diable l'imbécile qui va se faire rouer précisément à l'heure où nous traversons la place de grève. Ne pouvait-il pas remettre la chose à demain ? Croyez, répondit l'ami, qu'il ne demanderait pas mieux et que l'incident est encore plus fâcheux pour lui que pour nous. Ce que nous avons de mieux à faire, mon cher Cigognac, c'est de nous résigner à tourner la tête de l'autre côté si le spectacle nous dégoûte, chose difficile pourtant lorsqu'il se passe près de soi quelque chose de terrible. Témoin saint Augustin qui ouvrit les yeux dans le cirque, quoiqu'il se fût bien promis de les tenir fermés, à un grand cri que poussa le populaire. « En tout cas, nous n'avons pas longtemps à attendre, » répondit Cigognac. « Voyez la bave à l'ombreuse, la foule se sépare devant la charrette du condamné. » En effet, une charrette traînée par une rosse que réclamait Montfaucon s'avançait, entourée de quelques archers à cheval, avec un bruit de vieille ferraille, et traversait les groupes de curieux se dirigeant vers l'échafaud. Sur une planche jetée en travers des ridelles était assis Agostin. auprès d'un capucin à barbe blanche qui lui présentait aux lèvres un crucifix de cuivre jaune poli par les baisers d'agonisant en bonne santé. Le bandit avait les cheveux entourés d'un mouchoir dont les bouts noués lui pendaient derrière la nuque. Une chemise de grosse toile et des grègues de vieille serge composaient tout son costume. Il était en toilette d'échafaud, toilette succincte. Le bourreau s'était déjà emparé de la défroque du condamné, comme c'était son droit, et ne lui avait laissé que ses haillons, bien suffisants pour mourir. Un système de cordelettes, dont le bout était tenu par l'exécuteur des hautes œuvres, placé à l'arrière de la charrette, afin que le patient ne le vît pas, maintenait Agostin, tout en lui laissant une liberté apparente. Un valet de bourreau, assis de côté sur un des brancards de la charrette, tenait les guides et fouettait à tour de bras la maigre rosse. « Eh mais !» dit Cigognac dans le carrosse. « C'est le bandit qui m'a autrefois arrêté sur la grande route en tête d'une troupe de mannequins. Je vous ai conté cette histoire pendant notre voyage, à l'endroit où elle s'était passée. »« Je m'en souviens, » fit Valombreuse, « et j'en ai ri de bon cœur. Mais depuis, il paraît que le drôle s'est livré à des exploits plus sérieux. L'ambition l'a perdu. Il fait d'ailleurs assez bonne contenance. » Agostin, un peu pâli sous son teint naturellement hâlé, promenait sur la foule un regard préoccupé et qui semblait chercher quelqu'un. En passant auprès de la croix de pierre, il aperçut le jeune enfant perché dont il a été question au commencement de ce chapitre et qui n'avait pas quitté sa place. À cette vue, un éclair de joie brilla dans ses yeux, un faible sourire entr'ouvrit ses lèvres. Il fit de la tête un signe imperceptible, adieu et testament à la fois, et dit à mi-voix « Chiquita ». « Mon fils, quel mot venez-vous de prononcer ? » fit le capucin en agitant son crucifix. « Cela sonne comme un nom de femme, quelque égyptienne sans doute ou quelque fille folle de son corps. » Pensez plutôt à votre salut. Vous avez le pied sur le seuil de l'éternité. Oui, mon père, et quoique j'aie les cheveux noirs, vous êtes plus jeune que moi avec votre barbe blanche. Chaque tour de roue vers cette charpente me vieillit de 10 ans. Pour un brigand de province, que cela devrait intimider de mourir devant les Parisiens, dit Jacquemin Lampourde, qui s'était rapproché de l'échafaud en jouant des coudes à travers les badauds et les commères, « cet Agostin se comporte assez bien. Il n'est point trop défait et n'a pas, par anticipation, comme d'aucuns, la mine cadavéreuse des suppliciés. Sa tête ne ballotte pas, il la tient haute et droite, signe de courage. Il a regardé fixement la machine. » Si mon expérience ne me trompe, il fera une fin correcte et décente, sans geindre, sans se débattre, sans demander à faire des aveux pour gagner du temps. Oh, pour cela, il n'y a pas de danger, dit Malartic. À la torture, il s'est laissé enfoncer 8 coins, plutôt que de desserrer les dents et de trahir un camarade. La charrette, pendant ces courts dialogues, était arrivée au pied de l'échafaud, dont Agostin monta lentement les degrés, précédé du valet, soutenu du capucin et suivi du bourreau. En moins d'une minute, il fut étalé et lié solidement sur la roue par les aides de l'exécuteur. Le bourreau, ayant jeté son manteau rouge brodé à l'épaule d'une échelle en galon blanc, avait tourné sa manche embourlée autour de son bras pour être plus libre et dégagé, et se baissait pour prendre la barre fatale. C'était l'instant suprême. Une curiosité anxieuse opprimait les poitrines des spectateurs. L'empour des Malartic était devenu sérieux. Bringuenari lui-même n'aspirait plus la fumée de sa pipe qu'il avait ôtée de ses lèvres. Thorgal, sentant qu'une aventure semblable lui pendait à l'oreille, prenait un air mélancolique et rêveur. Tout à coup, un certain frémissement eut lieu parmi la foule. L'enfant, hissé sur la croix, s'était laissé couler à terre et, se faufilant comme une couleuvre à travers les groupes, avait atteint l'échafaud, dont en deux bonds, elle escaladait les marches, présentant au bourreau étonné, qui levait déjà sa masse, une figure pâle, étincelante et sublime, illuminée d'une telle résolution qu'il s'arrêta malgré lui et retint le coup prêt à descendre.
« Ôte-toi de là, môme !» s'écria le bourreau, « ou ma barre va te briser la tête !»
Mais Chiquita ne l'écoutait point. Il lui était bien égal d'être tué. Se penchant sur Agostin, elle le baisa au front et lui dit « Je t'aime ». Puis d'un mouvement plus prompt que l'éclair, elle lui plongea dans le cœur la Navarra qu'elle avait reprise à Isabelle. Le coup était porté d'une main si ferme que la mort fut presque instantanée. À peine Agostin eut-il le temps de dire « Merci ».«
Quando esta vivo rapica, no hay remedio en la botica »,
murmura l'enfant avec un éclat de rire sauvage et fou en se précipitant à bas de l'échafaud où l'exécuteur, stupéfait de l'aventure, abaissait sa barre inutile, incertain s'il devait briser les os d'un cadavre.
« Bien, Chiquita, très bien !»
ne put s'empêcher de crier Malartic qu'il l'avait reconnu sous ses habits de garçon. Lampourde, Bringuenarille, Piégris, Thorgal et les amis du radis couronné, émerveillés de cette action, s'arrangèrent en haies compactes de façon à empêcher les soldats de courir après Chiquita. Les disputes et les poussées mêlées de horions que fit naître cet embarras factice donnèrent le temps à la petite de gagner le carrosse de Valombreuse, arrêté au coin de la place. Elle grimpa sur le marchepied et, s'accrochant des mains à la portière, elle reconnut Cigognac et lui dit d'une voix haletante
« J'ai sauvé Isabelle, sauve-moi !»
Valombreuse, que cette scène bizarre avait fort intéressée, cria au cocher
« À fond de train et passe, s'il le faut, sur le ventre de cette canaille !»
Mais le cocher n'eut besoin d'écraser personne. La foule s'ouvrait avec empressement devant le carrosse et se refermait aussitôt pour arrêter la molle poursuite des soudards. En quelques minutes, le carrosse eut atteint la porte Saint-Antoine et comme le bruit d'une aventure si récente ne pouvait être parvenu jusque-là, Valombreuse ordonna au cocher de modérer son allure, d'autant qu'un équipage, fuyant de cette vitesse, eût semblé à bon droit suspect. Le faubourg dépassé, il fit entrer Chiquita dans la voiture. Elle s'assit, sans mot dire, sur un carreau en face de Cigognac. Sous l'apparence la plus calme, elle était en proie à une exaltation extrême. Aucun muscle de sa figure ne bougeait, mais un flot de sang empourprait ses joues, ordinairement si pâles, et donnait à ses grands yeux fixes qui regardaient sans voir un éclat surnaturel. Une sorte de transfiguration s'était opérée dans Chiquita. Cet effort violent avait déchiré la chrysalide enfantine où dormait la jeune fille. En plongeant son couteau dans le cœur d'Agostin, elle avait du même coup ouvert le sien. Son amour était né de ce meurtre. L'être bizarre, presque insexuel, moitié enfant, moitié lutin, qu'elle avait été jusque-là, n'existait plus. Elle était femme désormais, et sa passion éclose en une minute devait être éternelle. Un baiser, un coup de couteau, c'était bien l'amour de Chiquita. La voiture roulait toujours et l'on voyait déjà poindre derrière les arbres les grands toits ardoisés du château. Valombreuse dit à Cigognac « Vous viendrez dans mon appartement et vous y ferez un bout de toilette avant que je vous présente à ma sœur, qui ignore mon voyage et votre arrivée. J'ai ménagé ce coup de théâtre dont j'espère le meilleur effet. » « Abaissez le mantelet de votre côté pour qu'on ne vous voie pas, que la surprise soit complète.
Mais qu'allons-nous faire de ce petit démon ?
Ordonner ? Dit Chiquita, qui, à travers sa rêverie profonde, avait entendu la phrase de Valombreuse. Ordonner qu'on me conduise à Madame Isabelle, qu'elle soit l'arbitre de mon sort.
Rideau baissé, le carrosse entra dans la cour d'honneur. Valombreuse prit Cigognac sous le bras et l'emmena dans son appartement après avoir dit à un laquais de conduire Chiquita chez la comtesse de Linneuil. À la vue de Chiquita, Isabelle posa le livre qu'elle était en train de lire et arrêta sur la jeune fille un regard plein d'interrogation. Chiquita resta immobile et silencieuse jusqu'à ce que le laquais fût retiré. Alors, avec une sorte de solennité singulière, elle s'avança vers Isabelle, lui prit la main et dit
« Le couteau est dans le cœur d'Agostin. Je n'ai plus de maître et je sens le besoin de me dévouer à quelqu'un. Après lui qui est mort, c'est toi que j'aime le plus au monde. Tu m'as donné le collier de perles et tu m'as embrassé. Veux-tu de moi pour esclave, pour chien, pour gnome ? Fais-moi donner un haillon noir pour porter le deuil de mon amour. Je coucherai en travers sur le seuil de ta porte. Cela ne te gênera pas du tout. Quand tu me voudras, tu siffleras ainsi. »
Et elle siffla.
« Et je paraîtrai tout de suite. Veux-tu ? »
Isabelle, pour toute réponse, attira Chiquita sur son cœur, lui effleura le front des lèvres et accepta simplement cette âme qui se donnait à elle.